Merci à vous d'écouter Europe 1, il est 18h.
L'Angleterre pleure le prince Philippe. Il s'est éteint ce matin à 99 ans. Une vie et un travail extraordinaire, dit ce soir le Premier ministre Boris Johnson.
Et nous accorderons évidemment une large place dans ce journal à cette personnalité complexe qui est arrivée à Buckingham sur la pointe des pieds avant d'imposer son style et son caractère.
Amateur d'art et de peinture, fervent défenseur de la cause écologique, mais fasciné par les avions, portrait d'un homme qui a bousculé les codes de la royauté britannique.
Son épouse, Elisabeth II, voyait en lui un roc, un soutien. La famille Windsor et l'aristocratie britannique moquaient au contraire ce prince de nulle part et de rien. Stéphane Bern sera avec nous et nous racontera qui était vraiment le prince Philippe.
Dans le reste de l'actualité, le début des vacances de printemps ce soir, mais les forces de l'ordre ont reçu la consigne. Cette fois, c'est tolérance zéro pour ceux qui s'aventurent au-delà des 10 km autorisés.
Du nord de la France à la vallée du Rhône et en passant par le sud-ouest, le gel a provoqué d'immenses dégâts dans les récoltes. Le ministère de l'Agriculture déclenche le régime de calamité agricole.
La Bourse de Paris a équilibre plus 0,06% à 6169 points.
La météo, bonsoir Anissa Adali.
Bonsoir Isabelle.
La pluie est de retour.
Oui, ça y est, le week-end qui arrive s'annonce gris, pluvieux et venteux. Nous avons une dépression très active qui va toucher quasiment toutes les régions. Seule consolation, la hausse des températures qui retrouve enfin des valeurs de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un communiqué très court publié ce matin sur le site de Buckingham. Un communiqué et une photo en noir et blanc. On voit le prince Philippe en uniforme. Le texte est sobre. C'est avec un profond c'est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé.
Oui, le prince Philippe, duc d'Édimbourg, qui avait 97 ans, il aurait dû fêter ses 100 ans au mois de juin. Depuis l'annonce de sa disparition, bien sûr, les Britanniques viennent lui rendre hommage. Élodie Goulès, que vous êtes devant le palais de Buckingham.
Oui, exactement. Et devant les grilles du Palais Royal en ce moment, eh bien, il y a des gens de toutes les générations. Certains sont là par curiosité, alors que d'autres sont venus se recueillir. Une foule soudaine qui a même obligé le palais à enlever les criteaux déposés plus tôt dans la matinée et qui annonçaient la mort du prince Philippe. Des précautions liées au coronavirus, mais qui n'ont pas empêché Colin, 75 ans, d'apporter des fleurs et de venir se recueillir devant le palais.
Le prince Philippe est un homme que j'ai connu toute ma vie. C'est un homme formidable et il a tellement fait pour ce pays que je suis honoré d'être ici aujourd'hui.
Alors le drapeau est toujours hissé sur le toit de Buckingham Palace. Il n'est pas en berne, il est seulement à demi baissé pour marquer le deuil. Car aujourd'hui, les pensées des Britanniques ne vont pas seulement vers le prince Philippe, mais aussi vers la reine. C'est ce qu'explique Sandy, qui habite juste à côté de Buckingham Palace.
Nous sommes vraiment tristes pour la reine. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Et il a toujours été à ses côtés pendant les moments difficiles. Elle est un exemple pour nous tous.
Alors si l'annonce du décès du prince Philippe attriste évidemment le Royaume-Uni, elle n'est pas arrivée comme une surprise. Le duc d'Édimbourg avait été hospitalisé, rappelez-vous, pendant un mois en mars dernier pour des problèmes cardiaques. Prince Philippe, comme on l'appelle ici, aurait dû souffler sa 100e bougie dans 2 mois et 1 jour.
Élodie Goulesque, en direct de Londres, on dressera dans quelques instants le portrait du prince Philippe, mais on va s'arrêter sur l'un de ses combats.
Oui, l'écologie était l'une des raisons d'être du prince Philippe. Il a même un temps dirigé le WWF et figurez-vous que si la Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe, eh bien c'est grâce à lui, cette passion, ce combat pour l'écologie. Il était venu en parler en 1991 sur Europe 1 avec Jean-Pierre Elkabbach dans l'émission Pile et Face.
J'étais dans la marine pour 12 ans, alors on était toujours sur la mer. Si on habite dans la ville tout le temps, on n'est pas conscient de ça. Alors, on ne peut pas dire que c'est une passion, c'est quelque chose qu'on a appris.
Et est-ce que Sa Majesté la Reine soutient votre action dans le domaine de l'écologie?
Elle n'est pas contre.
Mais elle n'est pas pour?
Oui, ça c'est...
Elle soutient?
Ah oui, pourquoi pas. Ouais.
Ouais. Elle participe pour la défense?
Elle a assez à faire à lui-même.
Le prince Philippe sur Europe 1 dans l'émission Pile et Face avec Jean-Pierre Elkabbach. Il y a l'émotion des Britanniques, mais la mort du prince Philippe provoque de nombreuses réactions dans le monde entier. Les hommages se multiplient, Isabelle.
Oui, évidemment, notamment Emmanuel Macron, tout à l'heure sur Twitter, qui salue une vie exemplaire. Berlin, une longue vie passée au service de son pays. L'ancien président George Bush parle d'un homme qui représentait le Royaume-Uni avec dignité. Le prince avait le sens du service et du dévouement, écrivent quant à eux ce soir le roi et la reine d'Espagne.
Oui, ce ne sont que quelques-unes des réactions et elles sont bien trop nombreuses pour que l'on puisse toutes les citer. Elle dessine en creux le portrait d'un homme qui incarne une génération, mais qui était aussi un personnage très complexe. Le prince Philippe a eu un parcours que l'on peut qualifier d'exceptionnel, Emmanuel Dutheil.
Je vous emmène à Londres. On est le 20 novembre 1947. Je peux vous dire qu'il fait un petit peu frais ce jour-là à Londres. 1 million de personnes massées le long du parcours pour le mariage d'Elisabeth II et du prince Philippe. C'est un événement, un mariage désiré par Elisabeth II qui était tombée sous le charme de ce très bel officier de la Navy. Avec ce mariage, on change tout simplement d'époque. C'est le premier mariage royal à être diffusé en direct à la télévision.
Dans l'abbaye de Westminster, où depuis les plus anciens âges se déroulent les
Et ce mariage, c'est le jour le plus important pour le prince Philippe. C'est son entrée sur la scène internationale. Il a 26 ans et pour lui, c'est une sorte de conte de fées. Un vrai conte de fées. Né prince de Grèce et de Danemark le 10 juin 1921 à Corfou en Grèce, il n'était pas prédestiné à être l'époux d'Elisabeth II. Il marchera pourtant toujours deux pas derrière elle. C'est le protocole qui l'impose pour lui qui n'a jamais réussi à obtenir le titre de roi. Le prince Philippe ne cachera jamais sa frustration sur ce point, mais il sera dévoué à la couronne. Il va parrainer jusqu'à 780 organisations dans les différents pays du Commonwealth. Alors là, pourquoi ça fait rire? Parce qu'il vient de nous dire « Vous allez être sur le point de voir l'expert mondial » des inaugurations de plaques. Alors c'est vrai qu'il avait à côté de ça plein de passions. Il était fan de sport, il était fan de compétition équestre, il était fan d'art, il était fan d'aviation. Et le prince Philippe avait, oui, beaucoup d'humour, mais on l'appelait aussi le roi des gaffes. Pour ça, au moins, il avait réussi à obtenir le titre de roi. Il faut dire que ses gaffes sont nombreuses. Comme en ce jour de 2013, on est dans un hôpital britannique.
D'où venez-vous ?
Je viens des Philippines.
Les Philippines ? Le pays doit être à moitié vide. Vous êtes tous ici.
On recrute de l'école juste à côté.
Visiblement, pas vraiment.
Parfois, en tout cas.
Elles viennent de l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette école ?
Alors, on parlait bien évidemment beaucoup de ses gaffes et on parlait aussi de ses infidélités. Il a été, malgré tout, un soutien sans faille de la reine Elisabeth II qui parlait de lui comme son roc. Sa santé était plus fragile depuis quelques années. Il avait même dû prendre sa retraite publique en 2016 après avoir honoré son 22 millième engagement en solo. En 2019, il renonce à conduire, vous en souvenez peut-être, après un retentissant accident de voiture qui avait fait grand bruit. On était alors aux abords du château de Windsor. Mais c'est le chef de la famille malgré tout. Il avait, à côté de ça, des relations très tendues avec Charles. Charles est un romantique, je suis un pragmatique, aurait-il dit à son biographe. Mais le grand-père de l'Angleterre était entré dans le cœur de tous les Britanniques. Un grand-père qui était revenu presque sur le devant de la scène à l'aune de la série The Crown.
Êtes-vous mon épouse ou êtes-vous ma reine ?
Je suis les deux et un homme fort serait capable de s'agenouiller devant les deux.
M'agenouiller devant mon épouse est hors de question.
Votre épouse ne vous le demande pas.
Mais ma reine me l'ordonne, n'est-ce pas ? Je vous demande de faire une exception pour moi.
Une exception. Alors on va dire qu'aujourd'hui, il a peut-être tenu son tout dernier rôle. Mais là aussi, malheureusement pour lui, même s'il avait voulu une cérémonie plutôt modeste, il va devoir se contenter d'une cérémonie encore plus modeste pour cause, bien évidemment, du Covid.
Emmanuel Duteil, passionné d'histoire et notamment de tout ce qui touche à l'histoire de la royauté. On va maintenant interroger un homme qui connaît bien lui aussi les têtes couronnées. On peut même dire que c'est sa spécialité. Bonsoir Stéphane Bern.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On vient de l'entendre dans le portrait qu'on a fait Emmanuel Duteil. Le prince Philippe a eu littéralement plusieurs vies. Il y a eu l'exil de ses parents. Lui-même a été trimballé de pensionnat en pensionnat. C'est un homme qui s'est construit dans l'adversité quelque part.
Oui, certainement. Et c'était l'homme justement des moments difficiles. Et c'est pour ça qu'il a peut-être du mal avec. Il avait du mal ces derniers temps avec les mollesses des uns et des autres ou les états d'âme. Parce que lui n'en avait pas en réalité, c'était un battant. Il était sportif, c'était un viking, il était autant grec que danois surtout, et c'est vrai que d'ailleurs, c'était un colosse physique quand il a séduit la future reine Elisabeth. Marion Crawford, qui était la nounou de la princesse Elisabeth, la princesse Erika, a dit « Oh, il fait le pont ». C'est vrai qu'il avait un côté parfois un peu arrogant, mais en fait, c'était quelqu'un de très sensible qui reprochait au fond d'être une foutue amie, c'est son expression. Et parce qu'il avait le sentiment que, justement, comme le disait Emmanuel Duteil, il n'avait jamais accédé au boxier, aux boîtes. C'est-à-dire que jamais la reine ne lui avait confié un rôle essentiel. Mais encore une fois, ce qui est important, ça a été très bien dit, c'était la reine est un chef de l'État.
Stéphane, on va vous interrompre. Je suis confuse, hein, Stéphane Bern, mais la liaison est vraiment très mauvaise et on s'inquiète un peu pour nos auditeurs. On est vraiment désolé. On vous retrouvera évidemment sur l'antenne d'Europe 1. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Et puis, je vous rappelle que je recevrai également tout à l'heure à 18h20 pour évoquer le prince Philippe. Je recevrai l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères qui sera mon invité tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Mouillet.
18h12, c'est la suite du journal de Christophe Lamar sur Europe 1. Et cette fois, l'école est bien finie hein, pour 15 jours. C'est le début des vacances scolaires ce soir. Mais cette fois, pour s'échapper, c'est interdit. Hein.
Et oui, 10 km autour de son domicile. Au-delà, il faudra une raison impérieuse. Autrement dit, une sacrée excuse parce que cette fois, il n'y aura pas de tolérance. Les policiers et les gendarmes vont sévir, rappelle le ministère de l'Intérieur. Direction l'autoroute A6 à Lyon, route traditionnelle des vacances vers la Méditerranée ou les Alpes. Vous nous le confirmez, Jean-Luc Boujon, les forces de l'ordre ont reçu des consignes.
Oui, la première consigne, c'est d'être présent et visible, hein, comme ici au péage de Villefranche-sur-Saône, juste avant Lyon. Une dizaine de gendarmes contrôlent les automobilistes. La plupart du temps, ça passe, hein, tout est en règle. Mais ici, petit problème pour ces Parisiens, qui évidemment sont à plus de 10 km de chez eux.
Il serait possible de voir votre attestation de déplacement, s'il vous plaît.
Désolé, on n'a pas fait l'attestation en fait, sur Stop Covid, comme on fait un long trajet. Il faut qu'on la fasse maintenant.
Vous allez labelliser pour la circulation en France, malgré le confinement, sans l'attestation.
Voilà, 135 € pour absence d'attestation. Ce qui énerve passablement Tristan, le père de famille.
Nous allons dans les Cévennes pour faire garder les enfants par leur grand-mère. On a oublié de faire 3 clics sur une attestation et on va être visiblement verbalisé. On a mis en danger personne. Donc c'est la belle administration à la française. Les gouvernements qui n'ont pas fait leur boulot, qui n'ont pas commandé de vaccins, qui n'ont pas maîtrisé la pandémie et tout retombe sur le dos des citoyens. Visiblement, ils ne savent rien faire d'autre qu'emmerder le monde.
Le sous-préfet de Villefranche, Jean-Jacques Boyer, assume cette sévérité appliquée avec discernement, selon lui.
Et les personnes qui en profitent pour partir font courir un risque à nos concitoyens, puisque les mesures renforcées, elles ont pour objectif d'éviter au maximum les contaminations. Donc il n'y a pas de départ en vacances.
Voilà un des transgressions qui reste tout de même une exception. Il n'y a qu'à voir le faible nombre de voitures qui passent à ce péage de Villefranche ce soir. En temps normal, un vendredi soir, veille de vacances scolaires, il aurait été engorgé, ce qui veut bien dire que la majorité des Français ont choisi de ne pas se déplacer ce week-end.
Le reportage de Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Emmanuel Macron a visité aujourd'hui l'usine du groupe Delpharm, c'est en Eure-et-Loire et c'est là que seront mis en flacon les flacons de Pfizer et de BioNTech.
Oui, quant aux moins de 55 ans vaccinés avec une première dose d'AstraZeneca, ils se verront proposer une deuxième injection avec un vaccin différent, recommandation de la Haute Autorité de Santé. Cela concerne plus de 530 000 patients.
Et on y reviendra tout à l'heure avec les grandes voix. On parle maintenant de l'une des pires catastrophes pour l'agriculture française. La vague de froid et de gel a détruit des milliers d'hectares de fruits, de vignes et de céréales.
Plusieurs centaines de milliers d'hectares, dit le ministre de l'Agriculture, qui a déclenché le régime de calamité agricole. Le gel a touché pratiquement toute la France et toutes les cultures, du nord à la vallée du Rhône, en passant par le sud-ouest. Rien que dans le nord, par exemple, 40 000 hectares de betteraves ont gelé. Une situation inédite et catastrophique pour la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert.
Il faut remonter à 1956 pour avoir des températures de gel aussi forte. Parmi les régions qui sont moins touchées, il y a l'Alsace, les Charentes, mais c'est assez exceptionnel que l'ensemble de la France soit touchée. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Occitanie, Gironde, 35% de pertes. Et dans certains territoires, c'est 100% de pertes. Tout est détruit pour certains viticulteurs et arboriculteurs. C'est dramatique parce que c'est la récolte de l'année qui est fichue. Pour les producteurs de betteraves, ils vont essayer de ressemer, idem pour le colza. Mais quand il s'agit d'arbres fruitiers ou de vignes, il n'y a rien à faire. Et s'il y a moins de fruits, il y a un risque effectivement que les prix soient plus élevés. Donc la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut vraiment que le gouvernement prenne la mesure. Le fonds de calamité indemnise, mais pas tout, jamais tout. Et dans le meilleur des cas, ça met 4 mois pour arriver sur les exploitations. Donc il faut aller très vite pour les expertises et la remontée des données chiffrées des pertes.
La présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, elle répondait à Laura Taouchanoff dans le journal de Christophe Lamar. La météo, Anissa Haddadi, on vous retrouve. Demain, le temps sera bien plus gris.
Oui, la dégradation, Isabelle, qui est arrivée aujourd'hui, qui a notamment touché les régions situées à l'ouest du pays, au bord de l'Atlantique. Eh bien, cette dégradation, elle va s'étendre sur presque tout le pays demain, sur les deux tiers nord, du Bordelais jusqu'au Grand Est, en passant par les Pays de la Loire, le Centre, la Bourgogne, le Nivernais, les Hauts-de-France. Eh bien, dans toutes ces régions, il pleut demain toute la journée. Des pluies qui s'installent. Ça va même continuer dimanche avec des flocons de neige, mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler. Dans le sud, en Occitanie, en Auvergne et sur la vallée du Rhône, le temps reste sec. Et puis, eh bien, dans le sud, nous avons une autre dépression. Là, ce sont des pluies qui arrivent de Méditerranée. qui vont donc toucher les Cévennes avec de la pluie toute la journée et l'île de Beauté. Vraiment, c'est un temps qui ressemble plutôt à une journée automnale. Ce qui va nous faire penser au printemps, c'est les températures qui remontent. Demain, une vraie hausse avec des valeurs en fin de saison, avec 5 degrés à Rodez, 6 à Lille, 7 à Nantes, 9 degrés pour Paris et 12 à Biarritz le matin. C'était des valeurs que nous avions l'après-midi, il y a quelques jours encore. Hein. Et puis au meilleur de la journée, on aura 13 degrés à Vannes, 14 à Paris, 18 à Marseille et 22 la maximale pour Mont-de-Marsan.
On va retenir que les bonnes nouvelles, la hausse des températures.
C'est ça.
Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe 1. Écoutez le monde changer.